Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos saupoudrées d'allégresse, une émission où c'est vrai, je fais souvent mon beurre des bourdes de mes camarades Eva et Céline. Or, Debout les copains, c'est comme le grand débat, un jour vient l'heure de la restitution. Je m'étais engagé à diffuser régulièrement, pour compenser un peu le tort que je fais à Eva et Céline, un off de moi dans lequel je serais ridicule. Je m'y plie donc, même si, comme vous l'imaginez bien, chers auditeurs, n'étant ni dictatorial, ni impatient, ni obsédé par la bouffe, ça a été difficile de trouver un extrait ridicule de moi parlant à la régie hors antenne. Il m'a fallu 17 bonnes secondes. Seb, bordel de merde! Tu sais ce qu'il faudrait, Seb, pour réparer ton erreur? Il faudrait, pour réparer ton erreur, un petit déjeuner de qualité. Un petit déjeuner de qualité avec un autre café et puis des petites gourmandises. Kissou, kissou!
Je ne vois pas beaucoup mon petit déjeuner. Tu lui as dit d'abandonner son montage à la con, là? Pour me trouver des cookies, c'est quand même plus intéressant.
Kissou, kissou! Seb, faut me repenser ce petit déjeuner de A à Z, là. Non, là, c'est pas mangeable. Il doit recommencer. Kissou, kissou!
Oui, je glisse toujours un kissou, kissou après un autre. Ça a été un choc pour celui qui le reçoit. Bon, bref, heureusement, debout les copains, c'est aussi Fabrice Dalbéda. Le monsieur Histoire d'Europe 1 qui, ce matin, à l'occasion des journées portes ouvertes à la SNCF, revient sur l'histoire de la naissance de la Société Nationale des Chemins de Fer en 1936.
Merci d'écouter Europe 1 ce lundi 13 mai. Et très bon réveil, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 13 mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Emmanuel Macron présidera demain l'hommage national aux 2 commandos d'élite tués pour sauver des otages au Burkina Faso. Dès le début de ce journal, vous entendrez le témoignage de la compagne de l'un d'eux. Les employeurs ont bien du mal à mettre en place des mesures pour protéger leurs salariés au volant et pourtant la route est la première cause de mortalité au travail. Cette fois, tout est fini. C'est la une de Vaucluse matin après l'humiliante défaite de Marseille hier soir face à Lyon 3-0. Marseille qui ne disputera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. On y revient évidemment avec Jérôme Lacroix dans quelques minutes.
Europe 1.
La ministre des Armées, Florence Parly, devait accueillir hier la dépouille des 2 soldats d'élite du commando Marine Hubert, tués au Burkina Faso lors d'une opération pour sauver des otages français. Alain Bertoncello, 28 ans, et Cédric de Pierrepont, payés de leur vie. Un hommage national leur sera rendu demain dans la cour d'honneur des Invalides en présence d'Emmanuel Macron. Florence Charton était la compagne de Cédric de Pierrepont. Elle se souvient de leurs derniers échanges.
Je l'ai eu rapidement par téléphone, juste avant qu'il parte pour la dernière mission. Ce dernier mot, c'est qu'il ne pouvait pas rester très longtemps parce qu'il était sur un départ. Et le lendemain matin, quand j'ai vu que j'avais pas de message à mon réveil, je me suis dit qu'il n'était pas encore rentré. Je ne pouvais pas imaginer que c'est parce qu'il était mort. Personne ne réalise, on a tous l'impression qu'il va rentrer, que c'est juste un mauvais rêve. Mais non, il ne reviendra plus jamais. Ce n'est pas juste un métier, c'est en eux, ils vivent pour ça. Donc on ne peut pas les empêcher de partir. Je sais que à mourir, je sais que c'est comme ça qu'ils l'auraient souhaité, en héros. Ils connaissent très bien les risques. On les connaît, mais moins qu'eux, parce qu'on ne peut pas se les imaginer. En fait, c'est tellement dur ce qu'ils font. Otages, touristes irresponsables ou autres, peu importe, dans tous les cas, ils y seraient allés. Et si c'était à refaire, je sais qu'ils y seraient retournés. On sait qu'ils appartiennent vraiment à une élite, mais on ne s'imagine pas qu'ils ne puissent pas rentrer. Ce qu'on était en train de bâtir ensemble pour finir notre vie ensemble, ça ne pourra plus se produire. Il laisse un vide immense.
Florence Charton, compagne de Cédric de Pierrepont au Burkina Faso, interrogée par Marguerite Lefebvre. Et puis les hommages se multiplient également au Bénin après la mort du guide qui accompagnait les 2 Français enlevés. Fiacre Gbeji allait bientôt avoir 30 ans. Il avait 6 enfants.
C'est un chiffre édifiant, Céline. 500 personnes ont perdu la vie sur nos routes lors de trajets professionnels l'année dernière.
Oui, un constat dramatique qui n'est pas assez pris en compte par les employeurs des petites et moyennes sociétés. La route, première cause de mortalité en entreprise, 8 patrons sur 10 l'ignorent et ils sont trop peu nombreux également à respecter la loi du 1er janvier 2017, celle de dénoncer leurs salariés qui commettent des infractions au Haut-de-Leroy.
Avant même que la loi n'entre en vigueur, Laurent Gall, à la tête d'une entreprise de transport travaux publics en Ile-de-France, avait prévenu ses 90 chauffeurs. Il les dénoncerait à la moindre infraction au code de la route. Perte de 4 points pour un feu rouge ou un stop grillé, excès de vitesse, téléphone au volant, amende qui s'accumule jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Très vite, ce chef d'entreprise a vu les résultats.
C'était à partir de l'année 2018, parce que c'est là que les chauffeurs ont commencé à voir l'effet des dénonciations. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que nous on a vu une chute très forte de plus de 30% de nos infractions. Donc je pense que c'est la peur du gendarme principalement qui fait son effet. Et puis c'est globalement plus les véhicules légers que les poids lourds, 1 km au-dessus de la limite. C'est ça, c'est le truc classique.
Ce patron met un point d'honneur à respecter la loi, à dénoncer ses salariés et à refuser de payer leurs amendes. En revanche, même si le chiffre est en diminution, un quart des patrons aujourd'hui le font toujours parce qu'ils disent ne pas vouloir nuire à leur relation avec leurs salariés.
Aude Leroy pour Europe 1. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc. Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse sont jugés à partir d'aujourd'hui pour blanchiment et fraude fiscale. Un report du procès pourrait être décidé en raison de l'état de santé d'Isabelle Balkany qui a récemment tenté de se suicider.
Coup d'envoi de la campagne officielle des élections européennes aujourd'hui.
Et on pourra notamment découvrir les clips des différentes listes. Dans le Figaro, Édouard Philippe affirme ce matin que les conditions sont réunies pour son maintien à Matignon. Il déclare aussi que sa relation avec le chef de l'État est très bonne, fluide, fondée sur un très haut niveau de confiance. Le congrès de la CGT se tient cette semaine à Dijon, 52e congrès. Sans suspense, Philippe Martinez va garder la tête de la Confédération. Mais le constat est là, la perte d'influence de la CGT est réelle, Olivier Samin.
Il y a eu le choc du mois de décembre dernier. La CGT supplantée par la CFDT, devenue premier syndicat de France, privé et public confondu. Il y a eu parallèlement d'autres secousses, moins visibles mais tout aussi emblématiques. Dans ce qui a longtemps été ses bastions, EDF, où elle n'est désormais plus majoritaire, la RATP, où elle est devancée par l'UNSA, Air France, où elle n'est même plus autour de la table, sans parler de ses anciennes places fortes dans l'automobile, anciennes parce qu'aujourd'hui, chez Renault et PSA, c'est la CFE-CGC qui est en tête. Pour l'historien du syndicalisme Stéphane Sirot, cette érosion illustre la difficulté pour la CGT à répondre aux attentes d'un monde du travail qui change.
Vis-à-vis des catégories socio-professionnelles arrivant sur le marché du travail, à savoir des jeunes souvent plus qualifiés, et puis le salariat ubérisé, les auto-entrepreneurs que la CGT aujourd'hui a du mal à rencontrer parce que la culture qui est la sienne est une culture syndicale largement éloignée des réalités du salariat tel qu'il est aujourd'hui.
Philippe Martinez est le premier à le reconnaître. Les structures de la CGT ne sont plus adaptées au monde du travail. Il y a quelques jours, devant les journalistes sociaux, il s'est même dit très inquiet pour son organisation. Les gilets jaunes qui agrègent des femmes, des retraités, des salariés de PME, des précaires. Les gilets jaunes, dit-il, sont le reflet de nos déserts syndicaux.
Olivier Samin.
Et puis, Eva Rock avait adoré l'expo Miro à Paris, mais il y a une expo qu'elle attend avec encore plus d'impatience.
Oh,
elle se passe à Bordeaux. C'est Vinexpo.
Un salon qui réunit. Salon qui réunit tous les acteurs de la planète des vins et des spiritueux. Les vins de Bordeaux qui, en ce moment, connaissent une passe un peu compliquée. Un recul de 13% à l'export. L'heure est à la remise en question sur le modèle de commercialisation. Stéphane Place.
Souvenez-vous, avril 2017, le gel anéantit une partie de la récolte dans le vignoble bordelais, perte globale de 40%, d'où une tension sur les prix et des parts de marché en moins. 2018, production normale, mais là, Bordeaux, qui a donc reculé, a du mal à reprendre toute sa place. Voilà pour la cause conjoncturelle qui explique cette baisse des ventes. Mais pour une partie seulement, car il n'y a pas que la conjoncture, reconnaît Christophe Château du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux.
Les nouvelles tendances, c'est le développement du blanc sec, du rosé, des effervescents et des créments. Et Bordeaux est très marqué rouge. 90% de la production de Bordeaux sont des vins rouges. Les consommateurs vont de moins en moins dans les hyper et préfèrent du commerce en circuit court. Bordeaux est très très présent en super, en hypermarché, est un leader des foires aux vins. Et les foires aux vins ont été un peu à la peine l'année dernière. La Chine est de très loin le premier marché pour l'exportation pour Bordeaux. La Chine a connu un ralentissement de son dynamisme économique. En plus de ça, la Chine a signé des accords de libre-échange avec le Chili et l'Australie. Et donc les vins chiliens et australiens qui rentrent en Chine ne sont plus taxés aujourd'hui, ce qui leur donne un avantage concurrentiel.
Alors la filière mise sur la qualité du 2018 pour remonter la pente et l'interprofession travaille aussi sur une nouvelle stratégie pour davantage mettre en avant le rosé, le blanc et le crémant. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et je signale que Bordeaux, nous y retournerons tout à l'heure avec notre invité du 6h20, Olivier Pouls, rédacteur en chef à la revue du Vin de France, nous racontera ce qu'il faut acheter cette année en vin. Mais attention, toujours Eva.
Avec modération.
Évidemment. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline, qui, ça y est, depuis le temps qu'elle me le promettait, a enfin mis de l'ordre dans sa vie en annonçant à son mari qu'elle le quittait pour moi.
Oui, c'est bien. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Pas grave. On s'en remettra. Pas.
Non, Céline, restons discrets. Inutile de la caméra qui est pour rien si je suis si séduisant et vous si corruptible.
Europe 1,
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Le fact-checking par l'histoire ce matin, à l'occasion de la journée porte ouverte à la SNCF, Fabrice Dalméda revient sur l'histoire de la naissance de la Société Nationale des Chemins de Fer en 1936.
Excellent réveil, il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure idéale pour faire un point sur la météo.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Et Rénoval fait encore fort aujourd'hui, Céline, car je crois qu'il fait très beau en ce lundi.
On va pouvoir découvrir la piscine. Une chose qu'on n'aura jamais, c'est le lundi au soleil. Ben non, ça c'est mon lancement de tout à l'heure. Bref, en tout cas, il va faire très beau.
Mais c'est vrai que comme c'est il nul. Était très très bon et
c'est
très original,
nul.
C'est bien fait de l'en faire.
En tout cas, il y aura du soleil. Voilà, toute la journée, sauf en Corse. Surtout sur la partie est de l'île, où on aura de la pluie et même un petit peu de neige sur le relief. Pour les autres, soleil, on l'a dit, et vent un petit peu sensible comme hier, un vent d'est, donc il sera un petit peu frais. Des rafales entre 40 et 50 km à l'heure pour la moitié nord, un petit peu plus pour la moitié sud, hein, puisque Mistral et Tramontane pourront souffler jusqu'à 90 km à l'heure. C'est pas mal, mais c'est beaucoup moins qu'hier. Les températures bien fraîches ce matin, elles iront de 15 à 24 degrés du nord au sud pour cet après-midi.
Merci Céline. Et Baroque.
Et c'est les anniversaire de Nikos Aliagas et de Laurent Cabrol. Alors depuis ce matin, 5h, on vous demande qu'est-ce que vous aimeriez leur offrir comme cadeau pour ce jour de fête. Vous nous avez répondu sur Twitter avec le hashtag Europe 1, comme Carlisa qui nous dit « Pour Laurent, je lui offrirais bien un bon cru de ma Bourgogne, ça c'est sympa. Et pour Nikos, un Leica ayant appartenu à Henri Cartier-Bresson ou un appareil photo de Douaneau. C'est pas mal comme cadeau.
Ça, c'est pas mal. Ça, c'est
et le
cadeau,
plus beau cadeau, c'est Jérémy, un super méga télescope pour que l'un observe les événements climatiques interstellaires et que l'autre les immortalise en photo. » C'est très joli comme cadeau.
Vraiment, vous avez beaucoup réfléchi ce matin, chers auditeurs. Vous êtes plus réveillés que moi.
Voilà.
Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'athlète qui nous rejoint à présent a bien des surnoms. Pour Eva et Céline, il est...
Hot GG.
Et pour ceux qui le connaissent vraiment bien, comme Fabrice Dalméda, qui sait que ses muscles les plus visibles ne sont pas forcément les plus impressionnants, il a d'autres surnoms encore.
Le guerrier bien loti, la lance puissante.
Oui, Fabrice, on a compris l'idée. Voici Jérôme Lacroix, alias Hot GG, pour le Journal des Sports. À la une du JDS, rideau sur la Coupe d'Europe.
Rideau, c'est le titre qui barre ce matin la une du cahier sport de La Provence. Le quotidien de parler d'humiliation après hier soir. La lourde défaite à domicile des footballeurs de l'OM. 3-0 face aux rivaux lyonnais. Fin de la 36e journée de Ligue 1 dans un stade Vélodrome. Suffocant, climat délétère, public mécontent et des incidents. Le bus lyonnais est caillassé à son arrivée. Nuée de fumigène en début de partie et à la fin les gaz lacrymogènes pour empêcher un envahissement du terrain. Les fans demandent le départ du président de l'entraîneur parce que la sanction tombe ce matin avec la défaite d'hier soir. Pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est sûr. Les Marseillais sont 6e ce matin. Ils ne peuvent plus accrocher le dernier billet pour l'Europe. La 4e place qui est à 7 points. Il n'en reste que 6 à prendre. Les Lyonnais, eux, ils sont presque en Ligue des Champions. Ils sont toujours 3e. Mais avec désormais 4 points d'avance sur les Stéphanois 4e, le président Jean-Michel Aulas salue d'abord une force de régularité.
Le plus dur dans le foot, c'est pas de faire des exploits, c'est d'être tout le temps en Coupe d'Europe. Là, ça fait 24 années. Je suis satisfait parce que je suis un homme de moyen et de long terme. Et je ne regarde pas ce qui se passe le soir du match, mais ce qui va se passer à la fin du championnat.
Et bien sûr, ambiance de fête dans le vestiaire lyonnais après la victoire à Marseille. Je voulais vous faire écouter ce matin une autre ambiance de vestiaire. Vous reconnaissez la musique?
C'est la musique,
l'hymne de la Ligue des Champions que les Lillois ont diffusé dans leur vestiaire. C'est quand ça c'est drôle, de quasi recueillement, bien sûr c'est du deuxième degré, parce que les Nordistes, ils ont gagné hier 1-0 contre Bordeaux, ils restent solides deuxième ce matin, 6 points d'avance sur Lyon. Faudrait vraiment un tremblement de terre avec triple effet papillon pour qu'ils n'aillent pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Déception en revanche du côté de Guingamp, un nul 1 partout à Rennes les envoie officiellement en Ligue 2.
Du handball, Jérôme, et le week-end a été difficile pour les joueuses de Metz.
C'est la première fois que le club atteignait le tournoi final de la Ligue des Champions, un mini tournoi à 4 qui se passait en Hongrie. Bilan pour les Lorraines, 2 défaites en 2 matchs, elles finissent 4e. Le club hongrois de Győr et la gardienne de l'équipe de France, Amandine Leno, remporte cette Ligue des Champions pour la 3e année d'affilée. Et puis, tournoi de tennis de Rome cette semaine, dernier grand rendez-vous de terre battue avant Roland-Garros. Élimination hier de Simon et Pouille dès le premier tour. En lice aujourd'hui Tsonga, Gasquet et Chardy. Hier, Novak Djokovic a remporté le tournoi de Madrid en dominant 6-3, 6-4 le jeune grec Tsitsipas.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
La Ligue française de foot à l'attaque de l'homophobie. Un plan doit être annoncé aujourd'hui. Le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, dévoile quelques mesures, dont une nouvelle procédure de remontée d'actes homophobes dans les stades via des fiches de signalement qui pourront déboucher sur des actions en justice. Et puis symboliquement, le week-end prochain, les capitaines de Ligue 1 et Ligue 2 porteront au bras un brassard arc-en-ciel parce que vendredi 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et à présent, nous ouvrons la page la plus prestigieuse de de notre matinale la plus érudite. Céline, vous voyez de quoi je parle, vous adorez.
Moi, j'aime bien la farine de pois chiche.
Oui, non, mais non, oui, non, mais là, c'est l'heure de la chronique histoire de Fabrice Dalméda. Vous allez voir, c'est encore meilleur que la farine de pois chiche.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Cette semaine, la SNCF propose aux Français d'entrer dans ses coulisses et de visiter ses installations. Une opération appelée « Vive le train ». Mais au fait, Fabrice, comment est née la SNCF ?
Ben, entre la SNCF et les Français, dès l'origine, ça a été la passion parce que une des raisons de sa naissance, ce sont les congés payés. En 1936, après les grèves, au mois de juin, le gouvernement de Front Populaire crée les congés payés 2 semaines par an. Et les salariés peuvent jouir d'un billet de voyage à tarif réduit. Or, les sociétés de chemin de fer, principalement privées, sont lourdement déficitaires et la nouvelle mesure aggrave leur déficit. Il faut donc trouver une solution.
Et alors, pourquoi précisément une nationalisation ?
Ben parce que le président du Conseil, le président du gouvernement de Front Populaire, à l'époque c'est Camille Chautan, pense qu'il faut une solution durable. À 51 ans, ce radical arrivé au pouvoir en juin 1937 sait que les investisseurs privés ne prendront pas le risque d'aller dans le rail. Et puis, il faut le dire, les syndicats ne sont pas inactifs. Il y a environ 500 000 cheminots et la CGT réunifiée y est très puissante. Elle pousse donc le gouvernement de Front Populaire, soutenu par des partis proches d'elle, les socialistes et les communistes, à nationaliser pour protéger son influence. Quant aux patrons, eh ben, ils espèrent garantir leur capital, tout simplement.
Et est-ce que finalement, ça a sauvé le secteur ?
Ben oui, la nationalisation décidée par Chautan le 31 août 1937 a donné l'impulsion pour moderniser le rail, ses locomotives, son réseau. Le paradoxe est que son gouvernement est tombé juste après la mise en application du nouveau statut en janvier 1938, si bien que l'on a oublié que c'est à lui que nous devons d'avoir créé cette grande dame qui nous ouvre les beaux paysages de France et toute cette semaine ses portes.
Merci. Ça me donne envie d'y aller.
Bah oui.
On ira.
Ah oui, il y a
oui,
plein de dépôts.
Magnifique. En plus, c'est gratuit.
Oui.
Comme on est un peu radin.
Voilà.
Merci beaucoup, Fabrice Dalméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'experts pour la commenter. Or l'actu cette semaine, ce n'est pas que le Festival de Cannes, c'est aussi le salon Vinexpo, la mecque des amateurs de bon vin. Pour en parler, qui mieux que notre vieil ami Olivier Pouls, rédacteur en chef à la Revue du Vin de France, qui avait co-animé avec Eva Rock le Club de l'été sur Europe 1, où il n'avait jamais esquivé les questions polémiques.
Est-ce qu'on a envie d'avoir du gras dans sa saucisse ou pas de gras dans sa saucisse ?
Faute ! Il pose toujours les grandes questions, Olivier. Faut-il s'attendre à un nouveau grand millésime pour Bordeaux ? Sur quel terroir miser ? Les réponses du roi du vin, Olivier Pouls.
Très bon réveil à tous sur Europe 1, il est 6h17. Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les époux Balkany devant la justice, ils vont être jugés à partir d'aujourd'hui pour blanchiment et fraude fiscale, un procès qui doit durer 6 semaines. Un hommage national sera rendu demain aux 2 militaires tués au Burkina Faso, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Ils ont donné leur vie pour sauver celle de 2 otages français. Un cortège traversera le pont Alexandre III, suivi d'une cérémonie solennelle dans la cour des Invalides. Enfin, en football, cette fois, c'est bel et bien fini. Plus aucun espoir européen pour l'Olympique de Marseille qui a été laminé par Lyon hier soir au stade Vélodrome 3-0.
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce lundi 13 mai, mais l'actualité c'est aussi ce doux son. Le début aujourd'hui du salon Vinexpo à Bordeaux avec modération bien sûr. Pendant 4 jours, les acteurs clés de l'industrie du vin se retrouvent pour échanger, négocier, déguster. Et quand on parle de vin...
J'ai hésité à vous apporter une bouteille de Beaujolais.
Mais je suis un peu...
C'est quand même bon, 6h...
Et alors, je suis un peu déçu.
Le meilleur spécialiste n'est pas loin, c'est un ami de la maison. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour, bonjour les copains.
Merci d'être avec nous en direct. Chroniqueur gastronomique, on vous retrouve avec Laurent Mariotte dans la table des bons vivants, de 11h à 12h30 le samedi sur Europe 1. Vous êtes aussi rédacteur en chef adjoint de la Revue du Vin de France. On va parler de Vinexpo, mais d'abord... Les viticulteurs ont dû faire face à des gelées tardives. Il y a aussi le spectre de la sécheresse cette année. Comment ces aléas climatiques risquent-ils de marquer les crues 2019 en France, Olivier ?
Alors, ça, on ne le sait pas encore vraiment, parce que comme on dit dans le vignoble, tant que le raisin n'est pas rentré, c'est très difficile de définir le profil du millésime. Il reste encore quelques mois avant les vendanges et j'ai envie de dire que tout peut encore se passer. On ne sait pas comment sera l'été, peut-être sec, peut-être pas. En tout cas, on ne va pas tirer de plan sur la comète. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, on assiste à une multiplication d'événements microclimatiques qui sont impactants pour la vigne. Mais vous savez, la gelée, telle qu'on l'a connue il y a encore quelques jours, malheureusement, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de la vigne. Ah, il y a des grands millésimes qui ont été marqués par le gel.
Ah, et ils ont été bons quand même.
Et alors, bon, le problème, c'est que quand le gel frappe, il prive la vigne d'une grande quantité de ses raisins. Alors, on ne peut pas préjuger de la qualité. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en aura pas beaucoup, effectivement.
Voilà, c'est ça. On sait déjà ça. Est-ce que vous sentez depuis quelques années l'impact du réchauffement climatique sur le vin ?
Alors, c'est notable. Indiscutablement, on sent que les hivers sont plus doux, que donc la vigne démarre son cycle un petit peu plus tôt et que donc, en fait, elle est plus sensible aux gelées qui peuvent arriver à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai. Il y a des épisodes aussi de grêle, en général, un petit peu plus marqués. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Et si on voulait être un tout petit peu cynique, on pourrait, on pourrait dire que pour la vigne, en fait, ce réchauffement climatique est plutôt une bonne chose. On n'a jamais fait autant de bons vins mûrs que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années.
On va tous mourir, mais on boira du bon vin. Mais c'est ça qu'on peut
mourir de chaud, mais avec du bon vin, effectivement. Mais vous savez, dans les années 70, 80, jusqu'au milieu des années 90, on récoltait souvent des raisins qui n'étaient pas très mûrs, on est obligé de chaptaliser. Ce sont des pratiques qu'on ne fait plus aujourd'hui parce qu'on récolte des raisins qui sont beaucoup plus mûrs, beaucoup plus sains, plus alcoolisés aussi.
Plus alcoolisés. Eva Roque.
J'ai été étonnée de voir, notamment dans les reportages au JT à propos du gel, des bottes de foin en feu près des vignes pour lutter contre le gel. Alors d'abord, comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est réellement efficace ? Et est-ce qu'il y a d'autres solutions pour lutter contre le gel ?
C'est vrai que quand les gelées sont annoncées, le vigneron, il va tenter de faire ce qu'il peut pour sauver une partie de sa récolte. Les bottes de foin, c'est une des solutions. Ça permet d'augmenter très légèrement la température, mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas traiter 1000 ou 10 000 hectares avec des bottes de foin. Il y a des systèmes qui fonctionnent aussi avec des grosses bougies qu'on va mettre tous les 3 ou 4 mètres dans la vigne, là aussi pour essayer de faire monter la température de 2-3 degrés, ce qui peut parfois suffire pour éviter la vigne. Vous avez des systèmes d'éoliennes géantes qui brasse l'air. Vous avez des systèmes d'aspersion pour tenter là aussi de couvrir le raisin et de monter légèrement la température. Et puis pour les plus riches, les plus fortunés, pour les parcelles, on va dire, les plus prestigieuses, on peut même utiliser l'hélicoptère, figurez-vous.
Ah, ça c'est vraiment pour les riches. Côté, on part parler de ce Salon Vinexpo qui rassemble cette année 29 nationalités différentes, ça m'a surpris, dont deux nouveaux pays, la Turquie et le Vietnam. C'est un peu surprenant, le vin vietnamien, vous avez déjà tenté ?
Alors le vin turc, ça je le connais, ça fait longtemps qu'on produit du vin en Turquie, il y a des choses très intéressantes. Ouais. Le vin vietnamien, je vous avoue que je n'ai pas encore goûté. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de tendance en Asie, alors qu'on ne s'y attend pas du tout, à planter de la vigne depuis quelques années. La Chine s'y est mise de manière très conséquente. Mais on trouve un peu de vin en Thaïlande, on en trouve en Inde, figurez-vous. Il y a presque plus de pays aujourd'hui dans le monde, sauf à avoir évidemment des régimes qui interdisent strictement la production de vin. Mais c'est vrai qu'il y a des tentatives qui se font un peu partout, pas toujours avec grand bonheur.
Avec grand succès. Justement, sur la Chine, 6 sociétés chinoises sont présentes sur le salon. C'est quoi les caractéristiques du vin chinois ? Est-ce qu'il s'améliore au fil des années et le vin de Bordeaux risque-t-il un jour d'être concurrencé par le vin du Sichuan ?
Alors, le vin chinois, c'est vrai que la Chine a massivement planté ces dernières années. Ils ont beaucoup investi. Il y a un petit coup d'arrêt parce qu'ils sont partis sur un modèle économique un peu particulier. Au départ, moi j'y suis allé assez souvent, j'ai vu naître les premiers vins chinois il y a une dizaine d'années, c'était franchement imbuvable. Aujourd'hui, techniquement, ils ont beaucoup progressé, ce qui fait qu'on commence à trouver des vins, on va dire, d'un niveau satisfaisant. Des très grands vins, je n'en ai pas encore vu, parce que faire du grand vin, ça prend du temps. On a mis 2000 ans en France à produire.
Il faut que la vigne soit vieille déjà.
Il faut de la vieille vigne, il faut avoir bien compris son terroir, l'adéquation entre le terroir, le cépage, etc. Je ne doute pas que les Chinois y arriveront un jour, mais c'est sans doute pas pour notre génération.
Les vins biologiques, Olivier, ils ont le vent en poupe, tout le monde en parle, tout le monde m'en parle. Il y a 25% d'exposants supplémentaires dans le secteur du bio et du biodynamique à Vinexpo. Est-ce que ça vous surprend ? Comment vous les jugez, vous, ces vins bio ? Déjà, alors, quelle est la différence, peut-être pour rappeler pour nos auditeurs, entre un vin bio, un vin biodynamique et un vin naturel ?
Alors là, il nous faudrait déjà la matinée pour bien expliquer tout ça. Alors bio, on va dire qu'on se concentre essentiellement sur la culture du raisin. Ensuite, c'est vrai qu'en matière de vinification, on n'a pas droit à l'utilisation massive de soufre et de produits intrants, etc. Le vin biodynamique fait appel là pour la culture de la vigne à une autre démarche, on va dire presque un petit peu plus ésotérique, où on va dynamiser le vignoble, prendre en compte la lune, utiliser des préparations qui sont un petit peu particulières, ça c'est un peu long à expliquer. Et puis le vin nature, il faut savoir qu'il n'est pas réglementé aujourd'hui en France, il n'y a pas de labellisation vin nature. C'est une philosophie. Et là, pour faire simple, c'est du raisin, effectivement, sur lequel on a rien mis. Et puis, il n'y a pas d'intrant non plus dans la vinification, et notamment le soufre. Et le grand enjeu se joue sur le soufre. Alors, il y a des vins...
Il fait pas mal à la tête, le
alors, naturel. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a y en a qui sont extrêmement bien faits. Quand c'est très bien maîtrisé, c'est intéressant. Mmh. Mais il faut savoir que le fait d'enlever le soufre du vin, de ne pas en mettre, en tout cas, ça modifie un petit peu le goût. Et puis, ça modifie aussi son potentiel de garde. Et ça oblige à être très prudent. Il y a des très bons vins nature, puis il y en a des très mauvais. Malheureusement, qui ne sont pas bien menés.
Pour finir, Olivier, pour nos auditeurs, en exclusivité pour eux, sur quel vin il faut investir cette année ? Peut-être un domaine, peut-être un propriétaire, peut-être une région, un terroir.
C'est pour votre cave personnelle, ça.
C'est pour nos auditeurs. C'est pour nos auditeurs, Olivier. Vous savez que je ne bois que de la Kézac.
C'est pour nos auditeurs. Un ami, ouais.
Non, mais 2018, qui va arriver dans un an, puisque là, le vin est toujours en cours d'élevage, est une très belle année à Bordeaux. Franchement, ça fera certainement partie des années qui vont marquer l'histoire de Bordeaux, en tout cas pour certains crus, notamment du Médoc. Et puis, vous pouvez aussi aller en Bourgogne, parce que la Bourgogne a enfin retrouvé un volume de production important, en tout cas qu'on attendait d'une telle région, et les prix pourraient peut-être se détendre un peu.
Ah oui, ça serait bien.
Donc
ça
serait
détend,
une bonne nouvelle, voilà, exactement. Donc, et puis après, mais globalement, 2018 sera un très beau millésime, un petit peu plus compliqué dans le sud de la France pour des raisons climatiques.
Ah d'accord, donc plutôt Bordeaux ou Bourgogne. Merci
avec
Olivier Pouls.
Avec modération, évidemment.
Avec énormément de modération, on vous retrouve tous les samedis sur Europe 1, là, sans aucune modération, à 11h auprès de Laurent Mariotte pour la table des bons vivants. Et on vous lit évidemment dans la revue des vins de France. Et pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, on le rappelle, on doit avouer que vous êtes plus qu'un collègue, un ami. D'ailleurs, Olivier, des projets avec Eva ?
On va la masser avec un peu de gros sel, avec du poivre, tout simplement. On ne la retourne pas toutes les 30 secondes, ça ne sert à rien.
D'accord, ça ne sert à rien. Merci Olivier.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec le journal du génie du news, David Doucan, et puis la météo, beau temps partout, sauf sur la Corse, on aura beaucoup de vent également. Et attention, ça reste un chouï frisqué sur la moitié nord.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo de ce 13 mai. Soleil partout, sauf en Corse.
Oui, c'est vrai, le ciel est chargé en Corse avec des averses, surtout sur la moitié est de la Corse. Pour les autres, c'est une semaine qui démarre sous le soleil. On a un petit peu de grisaille dans les vallées alpines ce matin, mais c'est déjà en train de se dissiper. Par contre, et comme hier, vous avez dû bien le sentir, on aura du vent, un petit vent d'est, hein, des rafales entre 40 et 50 km à l'heure pour la moitié nord, jusqu'à 90 km à l'heure pour la Tramontane ou le Mistral, donc pour la moitié sud. De bonnes rafales, mais ça soufflera quand même moins qu'hier. On a encore battu des records avec le Mistral, notamment du côté d'Avignon, 126 km à l'heure. Nouveau record mensuel d'ailleurs pour la ville.
Et côté température ?
Ce matin, c'est un petit peu frais. Hein. Le ciel a été bien dégagé cette nuit. Du coup, les températures ont bien baissé. On a 3 degrés à Metz, 4 à Nancy, 5 à Orléans, à Rouen, 8 degrés à Paris, 10 à Bordeaux, 12 à Nîmes et 15 à Perpignan. Et puis cet après-midi, on va gagner quelques degrés. Mais vous l'avez compris, ça sera un petit peu frais avec le vent. 15 à 18 degrés, c'est la moyenne pour la moitié nord, 19 à 23 plus au sud.
Merci beaucoup Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, certes matinée d'une certaine fantaisie, mais toujours rigoureuse sur le plan journalistique, ce que n'arrive pas à se mettre dans la tête le présentateur du journal de 6h30, David Doucan, qui a osé dire la semaine dernière que j'étais, je cite, les mots ils sont cruels, un amuseur. Eh bien, je me permets de vous signaler que non, je ne suis pas qu'un amuseur et que sous le vernis comique se cache un monstre de travail, un perfectionniste qui veille à tout dans son émission et qui reste toujours en alerte.
J'ai jeté les titres, les rappels des titres.
Ah bah bravo, bien joué.
Je les ai pas jetés, mais je les ai pas lus.
Ah. C'est pas comme si ça faisait 6 mois qu'à cette heure-là, t'avais toujours de rappels de titres.
Oui, bon bah, c'est pas grave. Si vous voulez vraiment des professionnels de la radio, vous avez les trois fantastiques. Politique, économie, médias, chaque matin nos experts vous éclairent sur l'actu et ses coulisses. Au programme notamment aujourd'hui, Roissy et Orly qui seraient les pires aéroports du monde, Axel de Tarlé vérifiera. Quant à Mickaël Darmon, il nous dévoilera déjà l'après-européenne pour la gauche. Il est vraiment fortif ce Mickaël.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
C'est le procès de toute une époque. Les époux Balkany sont jugés pour fraude fiscale et blanchiment. On les accuse d'avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc. L'hommage aux deux soldats tués en opération lors de la libération des otages français. Ce sera demain aux Invalides. L'Elysée prépare minutieusement la cérémonie. Et puis la descente aux enfers de l'Olympique de Marseille est terminée. Après la correction hier face à Lyon 3-0, aucune compétition européenne pour les Marseillais la saison prochaine.
Europe 1.
L'heure des comptes a-t-elle sonné ? Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris. Le maire et la première adjointe de Levallois sont accusés de fraude fiscale et de blanchiment. On leur reproche d'avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc, en particulier au travers de luxueuses villas à Marrakech et Saint-Martin. L'homme qui va peut-être faire tomber le couple s'appelle Didier Schuller, l'ancien directeur général des HLM des Hauts-de-Seine, condamné dans l'affaire du même nom, a décidé de balancer en 2013 l'existence du patrimoine caché des Balkany. Il explique pourquoi à Salomé Legrand pour Europe 1.
Pendant plus de 20 ans, j'ai, pour parler d'une manière un peu abrupte, fermé ma gueule. À partir de 2013, j'ai effectivement eu le comportement, entre guillemets, d'un repenti, c'est-à-dire que, trouvant dans le dossier des preuves absolument flagrantes des agissements de Patrick Balkany, j'ai décidé effectivement de répondre très clairement à la justice en la matière. J'ai pu m'apercevoir que ce que je pensais être de l'argent pour le RPR de l'époque, une partie de cet argent avait été sans doute mis de côté et détourné par Patrick Balkany à titre personnel.
Didier Schuller au micro Europe 1 de Salomé Legrand, et j'ajoute qu'une incertitude plane sur la présence tout à l'heure d'Isabelle Balkany sur le banc des accusés en raison de son état de santé. La première adjointe à la mairie de Levallois a tenté de se suicider le 1er mai dernier. Ses jours ne sont pas en danger. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, deux soldats d'élite tués lors de l'opération de libération des otages français au Burkina Faso. Un hommage national leur sera rendu demain aux Invalides, présidé par le chef de l'État. Alors comment se déroulera la cérémonie ? Virginie Riva.
Le cortège funéraire traversera le pont Alexandre III où les Français sont invités à venir nombreux saluer la mémoire de ces deux militaires, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, morts durant l'opération de libération des otages. Puis, leurs dépouilles seront déposées dans la cour des Invalides pour une cérémonie solennelle qui sera empreinte de l'émotion du décès de ces deux militaires. Elle sera dans l'esprit de l'hommage national rendu au colonel Arnaud Beltrame, indique l'Élysée. Seront présents les membres du commando Hubert dont étaient issus les deux militaires. Le casse-tête pour l'Élysée, c'est de protéger l'identité de ces soldats. Il ne faut pas que l'on puisse voir leur visage pour ne pas les mettre en danger. La presse pourrait donc être tenue à l'écart pour protéger les soldats de cette unité d'élite. La cérémonie sera le point d'orgue de cette opération qu'Emmanuel Macron a lui-même ordonnée jeudi soir. Ce sont les mots de l'Élysée. Cette décision de rendre un hommage national aux deux militaires va de pair avec celle d'avoir accueilli les deux otages libérés samedi soir, explique l'entourage du président. En tant que chef des armées, c'est lui qui a donné l'ordre pour cette opération. Il veut donc aller jusqu'au bout.
Virginie Riva, du service politique d'Europe 1, la compagne de l'un des deux soldats s'exprime. « J'ai perdu un homme parfait », dit-elle. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, propose que des écoles portent le nom des militaires tués. Le Burkina Faso a aussi été hier le théâtre d'un attentat antichrétien. 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées dans l'attaque d'une église catholique à Dablo. Des individus ont fait irruption pendant la messe hier matin et ont tiré sur les fidèles avant d'incendier l'église. C'est le combat d'une vie qui arrive aujourd'hui devant la justice, celle d'un homme qui, depuis près de 40 ans, essaye d'obtenir réparation après un accident de la route, un septuagénaire gravement blessé en 1982. Pierre de Cossette.
Ce dimanche de 1982 à Paris, dans sa Renault 5, Michel Monsacré ne voit pas surgir la voiture qui va lui griller la priorité et l'envoyer dans le coma. Le chef d'entreprise a alors 36 ans. 36 ans, précisément le temps depuis lequel il se bat aujourd'hui, contre un moulin, dit-il. 11 expertises médicales pour arriver péniblement à un taux d'invalidité de 45%, mais surtout des indemnités dérisoires selon lui, un assureur en face qu'il accuse de jouer la montre et une justice qu'il estime défaillante.
Moi, beaucoup de gens m'ont dit mais laisse tomber, abandonne. Et je me suis bagarré pendant longtemps en me disant, mais si, j'y arriverai, puisqu'il y a une justice qui est reconnue. Quand on conduit sa petite voiture à 40 à l'heure et qu'on se retrouve percuté et qu'on se retrouve à 6 mètres de la voiture, ah ben, les conséquences, c'est que vous perdez la mémoire, vous êtes incapable de travailler normalement. Je me suis retrouvé tout de même en étant obligé de gérer une entreprise en n'ayant plus les moyens pour le faire. L'histoire d'une vie, comment on gâche une vie?
Il y a 2 ans, le tribunal de Paris a condamné l'assurance. La GMF a versé 400 000 euros à Michel Monsacré, insuffisant pour le retraité qui évalue son préjudice à plusieurs millions.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Les élections européennes auront lieu dans 2 semaines, le dimanche 26 mai. Ce lundi marque le coup d'envoi de la campagne officielle avec affichage et spots télévisés. De nombreux débats télévisés sont aussi prévus. Le résultat du scrutin reste toujours aussi incertain. Dans les sondages, La République En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude. En tout, 34 listes concourent à cette édition.
À suivre dans ce journal, un rapport parlementaire remet en cause la dangerosité du glyphosate, moins cancérigène que la charcuterie. Est-ce que c'est vrai? La réponse dans un instant, tout de suite.
Bon réveil à tous, il est 6h36.
Europe 1.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, un rapport parlementaire met en doute la dangerosité du glyphosate.
Oui, une enquête menée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, remise aujourd'hui au Sénat. On y lit que le désherbant de Monsanto est moins cancérigène que la charcuterie. Un argument que l'on a bizarrement déjà souvent entendu. Marion Jort.
Ce rapport est une compilation d'études déjà existantes. Il tend à démontrer que le glyphosate n'est pas cancérogène et que, je cite, « il est moins dangereux que la charcuterie ». Comparaison qu'utilisent souvent les pro-glyphosate. Écoutez Jean Bizet, sénateur de la Manche sur Public Sénat. C'était en 2017.
Ça peut être potentiellement cancérigène au même titre que la charcuterie et au même titre que le café.
2 ans plus tard, on retrouve le même argument chez le sénateur Pierre Médevielle, co-rapporteur de l'étude parlementaire.
Regardez le classement de l'OMS, le glyphosate était classé en cancérogène peu probable. Mais vous avez produit, regardez la charcuterie à forte dose, c'est toujours pas toutes questions de dose.
Pour l'eurodéputé écologiste José Bové, aucun doute, ce sont des éléments de langage.
Cet argument est un argument récurrent de Monsanto et de ceux qui défendent le glyphosate. Je dirais que ce rapport est un rapport de plus de compilation d'un certain nombre d'études triées sur le volet pour justifier le discours de Monsanto.
L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a annoncé de son côté le lancement d'une étude indépendante pour trancher cette question.
Marion Jort pour Europe 1. On se souvient de la grandeur, c'était il y a longtemps. Mais la décadence, on est en plein dedans. Je vous parle bien sûr du club de cœur de Mathieu Noël, mais il a besoin de l'entendre. L'OM... a perdu hier 3-0 au Vélodrome face à Lyon, une correction qui privera Marseille de toute compétition européenne la saison prochaine. Le match s'est terminé dans les vapeurs de gaz lacrymogène utilisées pour disperser les supporters ultra, bien sûr, furieux contre leur club. Le récit de notre envoyé spécial à Marseille, Jean-François Pérez.
C'est dans une ambiance surréaliste que le rêve européen de l'OM est définitivement parti en fumée. Celle des feux de Bengale en début de match, puis celle, beaucoup moins festive, des gaz lacrymogènes tirés par les CRS en fin de partie pour éviter un envahissement de terrain alors qu'une bonne moitié des 60 000 spectateurs avait déjà déserté. Bus lyonnais caillassé, banderoles vindicatives et chauffourées nocturnes à la sortie du stade, ce bien triste divorce à la Marseillaise ne réjouit même pas le rival lyonnais, à l'image du président Jean-Michel Aulas.
Marseille a une histoire, a un public qui, par sa passion, est le plus grand de France et peut-être d'Europe, mais qui quelquefois dans la difficulté devient difficile à gérer. C'est très difficile de s'opposer à ces spirales négatives qui sont impulsées par le peuple, entre guillemets, par les supporters.
Pendant ce temps absurde dans un coin du stade, un écran géant propose des places à 30 euros pour le dernier match de la saison. Ensemble avec l'OM, est-il écrit, entre amendes, sanctions possibles contre certaines tribunes et désamour consommé, pas sûr que le message soit entendu. Marseille, Jean-François Pérez, Europe 1.
Et c'est la fin de ce journal, Mathieu. Comment vivez-vous cette fin de saison de l'Olympique de Marseille?
Mais je la vis assez mal, évidemment, comme tous les fans de l'OM. Mais je vous pose une simple question. Rappelez-nous, pour information, le nombre de victoires en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain.
Oui, bah, il y en a eu quelques-unes.
Il y en a eu zéro. Désagréable. Il y en a eu zéro. Et une pour nous.
Dire, aller à jamais au bout.
Les premiers. Ah oui, exactement.
Je pensais vous parler du nombre de matchs. Que...
C'était le journal de David Doucan, plus qu'un collègue pour moi, un modèle. Et pas journalistique, non, humoristique. Car sa générosité va jusque-là. Non content d'exceller dans son domaine, il m'offre aussi parfois, clé en main, des vannes.
Tiens, je te souffle une vanne. Je fais une brève sur le sommet européen à Sibiu, en Roumanie. À la fin de la brève, si tu veux, tu peux dire il paraît que cette petite ville de Sibiu, Sibiu.
Demain, nous verrons comment, après mon refus, David a tenté de refourguer sa vanne pourrie à Nikos dans son journal de 8h. Pour vous dire que Nikos a refusé aussi. Céline, on passe à la météo.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Céline, un beau début de semaine avec du soleil pour tout le monde, ou presque.
Oui, le presque, il est
moi,
pour la Corse.
Moi, je la trouvais bien,
hein.
Cette vanne.
Pas mal, moi, je l'aime bien aussi.
Céline.
J'aime beaucoup. Moi.
Il aurait fallu la tenter.
Sibiu,
on passe à la météo, oui, on est très
bio.
En retard. Et
il va faire très bio aujourd'hui.
On en parlera.
Oui, il va faire bio.
Il va faire très bio.
Oui, sauf en Corse. Où le ciel est couvert avec des averses, c'est ça, toute la journée. Partout ailleurs, ciel bleu, encore un petit vent, ce vent d'est, et puis des températures qui vont augmenter quand même cet après-midi. Elles sont très fraîches ce matin. 15 à 18 degrés, c'est la moyenne pour la moitié nord, 19 à 23 pour la moitié sud.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, chaque matin les trois fantastiques vous offrent de l'actu une vision unique, la leur. Au programme du jour, une cérémonie des Molières avec Eva Roch, la gauche après les européennes avec Mickaël Darmon et les aéroports français très très mal cotés avec Axel de Tarlet.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
C'est le procès d'une époque. Les époux Balkany sont jugés à partir d'aujourd'hui pour fraude fiscale et blanchiment. On les accuse d'avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc. Après l'opération de libération des otages français qui a coûté la vie à deux soldats des forces spéciales, la compagne de l'un d'eux s'exprime. « J'ai perdu un homme parfait », dit-elle. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, propose que des écoles portent le nom des militaires tués. Il s'agit de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Un hommage national leur sera rendu demain aux Invalides. Enfin, c'est aujourd'hui le coup d'envoi de la campagne officielle des élections européennes du 26 mai avec affichage et spots télévisés. Le résultat du scrutin reste toujours aussi incertain. Dans les sondages, La République En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude. En tout, 34 listes concourent à cette élection.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Dieu que le week-end vous a paru long sans eux. Voici les trois fantastiques. Eva Roch pour les médias, Axel de Tarlet pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Mickaël, nous allons démarrer par vous. Mais d'abord, suite à un rappel du CSA, nous signalons que dans le cadre de la campagne des européennes, nous avons donné trop de temps de parole aux grands partis et pas assez aux petits. Je vous propose d'écouter 30 secondes de Francis Lalanne chez nos confrères d'RTL. Je précise que la séquence qui suit s'est déroulée in extenso, sans trucage.
Tu vas partir chanter face au public, là, hein, bientôt. dit-il.
Francis, oula.
Francis est tombé. On va mettre le générique. Francis vient de tomber.
Ça va, Francis?
Francis, en fait, voilà, problème de genou. Ça va?
Non, mais tout va bien. Je suis tombé. Quand?
Mais non.
Mais si. Alors, on signale que les temps de parole sont respectés. Mickaël Darmon va pouvoir passer à la politique. Ces derniers jours, on a beaucoup entendu Jean-Yves Le Drian à propos de la libération des otages français, mais aussi, et ça c'est plus inattendu, sur l'état du PS. Et pourquoi le ministre des Affaires étrangères donne-t-il de la voix ces jours-ci?
Alors, c'est une apalissade hein, chez Jean-Yves Le Taiseux. Il parle quand il ne peut plus se taire. Ces jours-ci, il trouve d'ailleurs que la droite est un petit peu trop active dans le « en même temps macroniste ». Alors, il avait déjà mis les pieds dans le plat, on s'en souvient, en novembre 2018, à propos des tensions liées à la hausse des taxes sur le diesel. C'était sur Europe 1 également. Et en critiquant l'attitude d'Edouard Philippe, d'ailleurs, il avait, dès la sortie du studio, je peux vous dire, reçu un message en colère du chef du gouvernement. Cette fois, Le Drian dirige ses frappes, toujours stratégiques, sur le pacte de droite. Juge dans le Parisien le PS en état de suicide, la formule est certes étonnante, c'est pour faire le titre parce que sur le fond, Le Drian qui a quitté le PS souhaite que la gauche se fasse plus entendre au sein de La République En Marche. Cette sortie confirme bien hein, les appels du pied électoral vers la gauche en ce moment, après Macron qui cite Mitterrand sur le nationalisme, voilà Le Drian qui souhaite que la gauche soit plus présente chez les marcheurs et qui relance les questionnements sur le fameux signal social à donner pour certains après le grand débat. Mais une fois de plus, Jean-Yves Le Drian dément toute ambition pour Matignon, une manière de dire si un jour ça arrive, c'est pas de ma faute, parce qu'effectivement il fait quand même un rappel subtil à tous les prétendants. Matignon, c'est pas une ambition, c'est une nomination. Pour y aller, vaut mieux ne pas vouloir y aller.
Le constat de l'état d'agonie du PS est partagé par une autre personnalité socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui reprend les gants et remonte sur le ring.
Et oui, l'ancien premier secrétaire ne peut pas se résoudre à voir son parti prendre l'eau de toutes parts. Alors il entame un tour de France pour lancer une plateforme socialiste articulée sur les élus locaux et sur le mouvement associatif. Il votera pour la liste Glucksmann pour montrer sa loyauté et fera des propositions après les européennes. Et là, forcément, ça rend la direction du parti un peu nerveuse. Cambadélis inaugure effectivement cette période qui s'annonce vitale hein, pour le PS après les européennes et se positionne déjà au sein de ce parti qu'il a dirigé. Il lance donc les grandes manœuvres. On verra si c'est avec ou contre Olivier Faure. Et alors que la social-démocratie est un peu partout au pouvoir en Espagne, au Portugal, le PS est le seul parti social-démocrate le plus faible d'Europe. Et le message de Cambadélis est clair. Il faut parler à toutes les composantes de la gauche socialiste. Ces socialistes qui d'ailleurs au passage constatent que François Hollande n'a toujours pas appelé à voter pour la liste Glucksmann le 26 mai, peut-être une manière également pour lui de prendre date pour la suite. En tout cas, chacun à sa manière, les anciens plaident pour un retour en efficacité et pour que le PS soit moins gauche.
Merci Mickaël Darmon pour cette analyse économique. On passe à l'économie avec vous Axel de Tarlet. Axel, les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Orly serait parmi les pires aéroports du monde, comme vous y allez.
Voilà, c'est ce que montre un classement établi par l'entreprise spécialisée dans le dédommagement en cas de retard, entreprise qui s'appelle Air Help, et qui a donc passé au crible les 132 principaux aéroports du monde sur le ressenti passager. Alors sur 132, à votre avis, l'aéroport Charles de Gaulle arrive en combienième place ?
Ça doit être au fond du classement.
112e ! Mais il y a pire que Charles de Gaulle, il y a son petit copain Orly, lui, qui est 126e, vous voyez. Donc sont pris en compte, donc on est tout en bas, c'est parmi les pires aéroports du monde. Donc sont pris en compte trois critères pour ce classement. Un, les retards, qui comptent pour 60% de la note. Deux, les services, la propreté, l'attente au contrôle, 20% de la note. Et enfin, trois, la restauration, 20% également. Donc vous voyez, ponctualité, accueil, restauration, on n'est pas bon.
Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on répond chez l'aéroport de Paris ?
Alors chez l'aéroport de Paris, on conteste. On conteste ce classement en disant qu'il n'est pas bon. Alors, ils ont quand même un argument de poids. Oui. Ils disent, les retards, c'est pas nous. Les retards...
Bah, c'est les compagnies.
Oui, c'est les compagnies.
C'est pas toujours le cas. Bah oui, parfois, mais... c'est les problèmes de structure de l'aéroport.
Exactement. Et puis, un aéroport, écoutez, il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de retard. Et puis, après tout, ailleurs, ça se passe mieux, puisqu'on est tout en bas du classement. Alors, à la décharge d'aéroports de Paris, tous les aéroports français sont mal classés. L'aéroport français le mieux classé, il n'est qu'à la 89e place, c'est Toulouse. Mm-hmm. Vous avez Bordeaux qui est 100e, Lyon qui est 119e. Vous voyez,
on est très bas. Toujours.
On est très bas. Il faut faire quelque chose, parce que la France est la première destination touristique mondiale. On se targue de viser les 100 millions de passagers. Et donc, vous voyez, visiblement, c'est raté. Alors, néanmoins, juste, je termine par ça. Oui. Il y a peut-être une petite explication, c'est que quand on arrive en France, on croit arriver à Versailles, si vous voulez. On a la Tour Eiffel dans les yeux, et on atterrit, on arrive à Charles de Gaulle, ensuite on se prend le RERB. C'est sûr que c'est pas le Paris d'Amélie Poulain ou le Paris de Versailles qu'on rêvait.
Mais est-ce que c'est pas aussi tout simplement un problème d'âge pour chaque aéroport ? J'étais dans le Vercors, comme vous le savez, pendant les vacances, où j'ai vu un aéroport qui s'appelle JFK. Et l'aéroport de JFK, à New York, est bien pire. Enfin, j'ai trouvé. Enfin, moi, j'ai une expérience horrible de cet aéroport. Il est complètement vétuste.
Alors, vous avez raison. C'est sûr qu'à Doha, dans le Qatar, d'abord, ils misent énormément. Et d'ailleurs, celui de Doha est numéro 1.
Et voilà,
il y a énormément
d'argent,
neuf, ils sont flambants neufs.
Forcément,
mais
c'est
à nous de restaurer. Vous avez l'air de dire que puisqu'on est vieux, on est nul. Mais non.
À nous de
on
restaurer.
A l'expérience.
Exactement. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Eh bien, écoutez, depuis quelques années, France 2 avait la bonne idée de diffuser avant la cérémonie des Molières une pièce de théâtre en direct. Changement cette année avec une fiction inédite qui évoque Molière et qui est intitulée Brûler Molière. Nous sommes en 1664. Le dramaturge joue pour la première fois Tartuffe devant Louis XIV. Quelques jours plus tard, discussion entre les deux hommes.
Il me plairait que vous cessiez de représenter votre Tartuffe.
Vous vous moquez, votre majesté ?
Nullement.
Mais je vous ai vu rire lors de sa représentation.
Cher Molière, votre Tartuffe est fort plaisant.
Mais il ne me plaît pas que d'autres puissent l'entendre.
Sire, pourquoi priver mon public d'un spectacle qu'a applaudi le roi ?
Pliez-vous à notre bon plaisir, je vous prie.
Mais...
obéissez ! Pour le bien du royaume et le vôtre.
Eh bien, rejouer Tartuffe et faire taire ces dévots qui ont essayé de faire interdire la pièce va devenir l'obsession de Molière pendant des années. Il va lutter contre la censure, ne cessant d'invoquer évidemment la libre pensée et le rire. Difficile évidemment de ne pas transposer ce discours à notre époque en voyant cette fiction. Sur le fond, la fiction est extrêmement intéressante. On sent qu'il y a une vraie volonté de raconter avec exactitude cette période vécue par Molière et sa troupe. J'ai plus de réserves sur la forme, un peu trop classique sur la mise en scène notamment. Et il y a une musique d'ambiance que vous venez peut-être d'entendre dans cet extrait qui est omniprésente, qui est absolument pas en adéquation avec le téléfilm, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Un téléfilm qui précédera donc la cérémonie des Molières présentée par un Belge, Alex Vizorek, qui pour annoncer l'événement s'est amusé à débarquer sur le plateau de l'émission de vente aux enchères, vous savez, Affaire conclue, qui est présentée par Sophie Davant, un Molière dans les mains évidemment.
Bonjour.
Bonjour, je voudrais refourguer ceci.
Qu'est-ce que c'est ?
Ah bah un cale-porte, je crois.
Ah bah non, c'est quelqu'un de connu ça.
Ah oui, la moustache, les cheveux longs. C'est Laurent Deutsch.
Ah non, ça c'est Molière.
C'est la même chose. Bon, combien ça vaut ?
5 euros ?
Ah non. Ça m'arrange pas parce que moi j'en ai une vingtaine à refrouiller.
Ah bah même ?
Vous êtes avare.
Mais il y a des lettres.
Pardon ?
Une fiction plus une cérémonie, le théâtre à la télé, c'est ce soir et c'est
Axel
dès 21h sur France 2.
Ce qui est bon, c'est avec Molière. Eh oui, bien joué Axel, merci à tous. Merci Eva, Axel, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h-15.
5h-7h, Mathieu Noël.
De vous les copains, s'apprête à passer le flambeau de l'info à Nico Saliegas pour la matinale. Mais juste avant ça, ça sera un débrief un peu particulier et certainement chargé en émotion aujourd'hui puisque nous fêtons un double anniversaire. Vous le savez, celui de Nikos et de Laurent Cabrol. Beaucoup d'accolades et de bisous en perspective dans ce studio. Espérons que Laurent Cabrol n'en profite pas trop avec les filles.
Pas sur la bouche, j'ai déjà dit.
Oui, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale d'Europe dans une poignée de secondes.
Il est 6h53.
Oui,
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Tous les matins, lorsque Debout les copains tire sa révérence, vous le savez, le meilleur est à venir. Mais aujourd'hui, 13 mai, encore plus que d'habitude. Puisque nous célébrons l'anniversaire de deux vedettes d'Europe 1, simultanément. Nikos Aliagas et Laurent Cabrol. Alors déjà, faire des choses dans l'ordre. Joyeux anniversaire Nikos, 50 ans, âge magnifique. Vous êtes au top de votre capacité de séduction. Toutes les femmes se pâment devant vous, rient à gorge déployée à toutes vos facéties comiques, même les plus douteuses. Comme cette imitation étrange d'Étienne Dao, vendredi. Écoutez la réaction de Céline Dacosta. Pourquoi ce rire poli, si ce n'est parce qu'elle vous kiffe?
Aucun à Rome, une escapade à deux.
50 ans, apogée de la séduction et également du cerveau. Un cerveau qui turbine à toute vapeur, envoyant parfois les mots trop vite à une bouche qui n'arrive plus à suivre.
Les psys parlent d'un objet transitionnel. On n'a jamais autant connecté. On n'a jamais été autant connecté. On n'a jamais été autant été aussi seul aussi.
Aussi, oui, parfois. Solitude buccale, phénomène qui arrive parfois. Ce matin, c'est donc également l'anniversaire de celui qui est plus qu'un présentateur météo, le pilier, la colonne vertébrale d'Europe 1. Laurent Cabrol a lui aussi environ 50 ans, peu ou prou. Et ce qui est merveilleux, c'est ce lien qui s'est créé assez vite entre Nikos et Lolo. Mais un lien indéfectible. Quoi que dise Lolo, Nikos le soutient ou le félicite.
Et à la Saint-Anicée, que dit le dicton ?
Les nuages, on en a assez.
Bravo Laurent Cabrol, quelle improvisation.
Incroyable ! C'est complètement dingue en effet. Un soutien sans faille qui va parfois extrêmement loin, souvenez-vous.
Nos amis à l'écoute doivent se préparer pour aller faire un petit tour de, je sais pas moi, merguez.
Bah c'est bien ça.
Vous allez peut-être vous promener dans les bois.
Mais évidemment.
Et oui, la fois où Lolo avait décidé d'aller faire un tour en merguez dans les bois, Nikos avait dit évidemment, comme si c'était effectivement une idée logique. Laurent, qui après 35 ans de météo, pourrait prendre l'exercice par-dessus la jambe, si toutefois sa souplesse le permettait, mais non. En inlassable perfectionniste, il cherche toujours, après toutes ces années, le timing de la météo parfaite. Ni trop court.
Et tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Le froid, les pluies dans le sud.
Voilà, c'est résumé.
Ni trop long.
Si je peux me permettre, petit commentaire. Déjà, on les entoure, les arbres, pour prendre de l'énergie. Là, on les embrasse. Maintenant, on les mange. Bon, c'est pas mal.
Bon, il va faire beau ou pas?
Oui, bon. Lolo est un passionné, un génie, une diva de la météo qui, comme toutes les divas, a parfois ses coups de mou.
Vous me sentez totalement désappointé parce que, par exemple, hier, on imaginait qu'il allait pleuvoir sur Paris, il n'a pas plu, donc voilà. Vous savez, ça arrive en météo, hein. On est totalement les bras ballants, on se dit que va-t-il se passer? Et bien voilà, vous avez devant vous un homme désorienté.
Ah oui. Et puis, comme toutes les divas, Lolo aime tout simplement se faire désirer. Et lorsque vous lui demandez, Laurent, la météo, il vous répond souvent avec cette désinvolture propre à ceux qui seuls ont connu le vrai vedettariat, celui que procurait TF1 en prime time dans les années 80.
Ouais, je finis ma merguez et je suis à vous, là.
Quelle star. Bref, happy birthday, nos deux champions. Profitez, c'est votre journée. Nico, ce soir, vous comptez faire la fête?
Uniquement la feta.
Humour grec. En tout cas, Nikos, on vous attend à l'issue de la matinale. Toute la rédaction sera là, et notamment Hélène Zélani, pour vous dire à quel point ces 50 ans vous vont bien.
Il a pris cher, hein.
Oula. Ouais. Non.
Tu sens que...
Non. Oui.
Alors, remarque,
oui.
Non. Entre les excès...
Oui. Non, Hélène, merci, bon anniversaire. Ah là là.
Merci, mon cher Mathieu Noël. Merci, Eva Roch.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.